Le titre du message ce matin, on est dans l'évangile de Marc et on est presque dans les derniers moments. Et c'est sûr qu'on arrive au point crucial, qu'on pourrait dire, de l'évangile de Marc, qui est les dernières journées de la vie de Jésus. Puis ici au chapitre 14, les versets 43 à 72, c'est ce qu'on pourrait appeler le jour J dans la vie de Jésus. C'est le jour précédent sa mort. Et puis, les événements se situent entre le jeudi soir au vendredi matin. Et puis, on sait que Jésus a été crucifié le vendredi. Donc, ici, c'est la dernière soirée et la nuit que Jésus va passer. Et on voit ici vraiment des souffrances atroces que Jésus va subir. Naturellement, on sait qu'il va y avoir des souffrances physiques, mais il y a aussi des souffrances, des douleurs ici qu'on voit que Jésus est exposé. Là, il y a beaucoup de frénésie en ville parce que ce n'est pas la Saint-Jean-Baptiste, mais c'est la fête des pains sans levain, la Pâque, qui est là. Donc, c'est une fête dans le calendrier juif où cette fête-là, il y en avait trois, et elle était une de celles-là, où c'était comme un bon juif qui aimait Dieu allait à Jérusalem. C'était la place à être à la Pâque. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frénésie en ville, beaucoup de monde, beaucoup plus que d'habitude de ce qui se trouve. La dernière fois, dans le début du chapitre 14, Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples en préparatif pour le repas de la Pâque, où il va manger cette Pâque avec ses disciples dans la chambre haute. À cette occasion-là, Jésus va laver les pieds de ses disciples et le texte dans Jean nous dit qu'il met le comble à son amour. Et là, il fait une chose qu'on voit Pierre, entre autres, sa réaction. « Hey, tu ne peux pas me laver les pieds! » C'était comme inacceptable. Mais pourtant, Jésus lui dit « Écoute, Pierre, si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Et là, Pierre dit « Bien là, écoute, « Ah oui, vas-y d'abord, hein? Parce que moi, je veux être avec toi, Jésus. » Et là, Jésus lui explique que seulement ses pieds ont besoin d'être lavés, parce que le reste est déjà pur. Alors, Jésus lave les pieds à ses disciples, prend le repas avec eux, et c'est là qu'on voit qu'il institue pour la première fois la Sainte Cène et explique les événements qui s'en viennent. Il est immolé, rappelant ce que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. Et maintenant, Jésus est en train de dire qu'il va être cet agneau maintenant, cet agneau vivant de Dieu qui va être immolé. Et là, il va instituer la nouvelle alliance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Pendant ce même repas, Jésus va annoncer à ses disciples qu'un d'entre eux va le livrer entre les mains de ceux qui vont justement le faire mourir. Et il annonce en même temps le triple reniement de Pierre. Alors ça, c'est profiter de l'occasion pour enseigner une dernière fois ses disciples sur ce qui s'en vient. Et là, on a le chapitre 14, 15, 16 et 17 de Jean. Et il y a beaucoup de matière, de jus, là, d'enseignement que Jésus donne. Et c'est tout pendant cette dernière soirée où il est avec ses disciples dans la chambre haute. Et là va arriver le jardin de Gethsémané, où Jésus va passer la plus longue nuit de sa vie terrestre. Souffrance qu'un être humain puisse vivre. Lui, le Fils unique de Dieu, la lumière du monde, le pain de vie, le libérateur des captifs, le sauveur des perdus, le guérisseur des cœurs brisés, le don d'amour du Père pour le monde entier, celui qui n'a jamais commis aucun crime, qui n'a jamais dit aucun mensonge, qui n'a jamais fait aucun péché, qui n'a jamais fait de tort à personne, mais qui pourtant s'apprête à vivre les pires souffrances. Et tout ça parce qu'il a aimé. Parce qu'il nous a aimés. Il a accepté d'endurer. C'est ce que le récit d'aujourd'hui nous donne. Un aperçu des souffrances que Jésus-Christ a accepté d'endurer pour chacun de nous. J'ai intitulé le titre du message ce matin, « Dieu, t'es où quand ça fait mal? » Et c'est une chanson d'un chanteur québécois qui s'appelle Boum Desjardins, qui a donné justement le titre de sa chanson « Dieu ». Et peut-être que certaines des paroles de cette chanson vont trouver écho dans le cœur de ceux qui sont ici aujourd'hui ou ceux qui vont entendre le message sur le site web de l'Église. Comment peut-on se sentir si seul quand il y a tellement de monde autour? J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule ou qu'on essaie de me jouer un tour. Une semaine qui pleut, j'ai hâte de pouvoir sortir un peu. Quand il fera beau, ce ne sera pas mieux. Parce que dans mes yeux, il pleut. Il pleut toujours quand il n'y a plus d'amour. Dieu, t'es où, Dieu? C'est où que tu te caches quand j'en arrache? C'est où que tu te terres quand c'est la guerre? Quand il n'y a plus de soleil aux alentours, quand il n'y a plus d'amour depuis 3 jours. Peut-être qu'il a choisi 3 jours parce que ça rime, mais aussi on sait que Jésus était 3 jours dans le tombeau. Pourquoi tu serais plus important que moi? Imaginez-vous. Pourquoi tu ne ferais rien pour m'aider? Je prierais l'enfer que ce ne serait pas mieux. Pourrais-tu m'écouter un peu? Dieu, t'es où, Dieu? C'est où que tu te tairs quand c'est la guerre? Quand je suis perdu puis que j'en peux plus? Quand il n'y a plus de soleil aux alentours? Quand il n'y a plus d'amour depuis 3 jours? Dieu, t'es où, Dieu? Est-ce que vous vous posez cette question-là des fois? Quand ça fait mal? Mais le texte de ce matin, je pense, va nous apporter quelques réponses. Dieu, il est où? Il fait quoi? Quand ça va mal? J'aimerais m'approcher de toi ce matin, avec mes frères et sœurs, avec ceux qui sont ici, avec ceux qui écoutent présentement, ou qui écouteront ce message. Peux-tu répondre à cette question ce matin? Question que beaucoup de gens se posent. T'es où, Dieu, quand ça fait mal? Es-tu là? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux faire pour ceux et celles qui ce matin souffrent? Est-ce que tu peux entendre ce matin leur cri du cœur, Jésus? Est-ce que tu peux faire entendre ta voix ce matin? Répondre à ceux et celles qui se demandent, es-tu indifférent à ma situation? Ouvre nos yeux ce matin. Aide-nous à comprendre ce que ce texte dans l'Évangile de Marc nous montre. Ouvre nos cœurs pour qu'on reçoive
de ta part ce que nos cœurs ont besoin d'entendre. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Amen.
Alors, le récit biblique, ceux qui veulent suivre avec moi, je vais le lire. C'est dans l'Évangile de Marc, même une bonne portion. Et ça se divise en trois parties principales. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Verset 43. Ici, c'est la trahison de Jésus par Judas. Et aussitôt, alors, une fois que Jésus avait prié dans le jardin de Gethsémané, cherchant la face de son Père et essayant de trouver réconfort et soutien dans la prière. Alors, ça dit, « Et aussitôt, comme est Judas, l'un des douze, et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons. » Jean nous dit même que c'était une cohorte, donc un groupe d'environ 600 hommes, 600 soldats, il y avait des huissiers en plus, donc c'était une foule assez nombreuse. Matthieu va donner cette précision-là aussi, que c'était une foule nombreuse. Alors, 600 et quelques personnes, c'est du monde. Vous comprenez? Et là, ils arrivent en plus avec des épées et des bâtons. Et ils avaient été envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, parce qu'ils veulent que Jésus soit arrêté et jugé. Verset 44. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, « Rabbi, imaginez-vous là. » Et là, il l'a embrassé comme un ami embrasse son ami sur la joue. Alors, ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Jean, avant qu'il fasse ça, Jean nous précise qu'il s'est passé quelque chose. Parce que aussitôt, ça dit que cette foule, donc si on s'imagine 600 hommes armés jusqu'aux dents, entendent « c'est moi Jésus », savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont reculé puis ils ont tombé par terre. Puis là Jésus il dit « je vous leur demande, c'est qui vous cherchez? C'est moi ». Mais Jésus fait ça parce que il dit « laissez aller les autres ». Même à ce moment-là, Jésus pense plus à ses disciples qu'il va penser à lui. Mais c'est quand même surprenant de voir que juste dans ta vie, avec qu'est-ce qui s'en vient, la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus a emmené toutes ces gardes-là à reculer puis à tomber par terre. Puis là, Jésus a dit aussi ceci, « Si je voulais, mon Père m'enverrait quoi? 12 légions. Une légion, disons, par disciple et incluant Jésus. Judas, naturellement, n'avait pas besoin d'une. Hein? Il était du mauvais bord, il était juste 600. Savez-vous comment c'est une légion? Une légion? 6 000. Hein? 12 légions, ça serait 6 000. Donc, c'est l'équivalent de 120 anges par chaque soldat. Jésus dit, si je voulais, je le demanderais à mon Père, et c'est ça qui arriverait. Parce qu'il a dit aussi à Pierre, qui avait pris l'épée, puis coupe l'oreille, « Fais pas ça, Pierre, ça vaut pas la peine. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas ça qui doit arriver. » Alors, c'est intéressant de voir aussi ces petits détails-là, et Jean et les autres évangiles nous donnent justement d'autres informations. Et là, ça dit justement, au verset 3, « Mais Jean le nomme, et c'est Pierre, un de ceux qui étaient là, qui est Pierre, l'apôtre Pierre, tira l'épée, naturellement c'est Pierre, le foudroyant Pierre, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » Et la joke qui est souvent mentionnée, c'est que Pierre visait, lui, le milieu de la tête, mais il était tellement maladroit qu'il a pogné juste le... Puis apparemment, c'est juste la partie basse de l'oreille, là, comme le petit morceau là, qui pend là, de l'oreille. Donc, il y a une partie de l'oreille, dans le fond, qui a tchoum, choppé. Il a visé, mais... Mais on voit quand même son courage à travers ça. On voit son amour pour Jésus, son désir de défendre Jésus. Et Jésus aussi a guéri l'oreille de cet homme. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous. J'enseignais dans le temple et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Autrement dit, moi j'agis en plein jour, j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, mais vous, vous venez même de nuit, comme si j'étais un brigand, puis pourtant j'étais disponible à chaque jour, je me suis jamais terré, j'ai jamais essayé de jouer à la cachette, quoique des fois il se retirait intentionnellement, mais souvent pour enseigner ses disciples, accompli. Et là, Jésus le dit clairement, la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et là, ce qui est triste de voir ici, c'est que à ce moment-là, voyant que Jésus n'allait pas se défendre, qu'il était résigné à ce qui s'en venait, ça dit tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, tous, naturellement, c'est les 11 disciples qui étaient avec lui. Ça dit par la suite, un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap, et l'on se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Qui serait peut-être la personne qui était ce jeune homme. Là, on arrive à une deuxième section, qui est les versets 53 à 65, et ici, c'est la comparution de Jésus devant le Sanhédrin. Verset 53, « Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, et on sait que c'était grâce à Jean qui a réussi à entrer dans la cour intérieure, parce qu'avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. » Mais il n'en trouvait pas. Ça parle beaucoup là de qui était Jésus et de son témoignage, de sa crédibilité en tant que personne. Verset 56, « Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. » Mais même là, les témoignages ne correspondaient pas. Ça ne s'accordait pas. Il n'arrivait pas à trouver deux personnes qui disent la même chose, exactement pareil. Alors, parce qu'il ne pouvait pas arriver à ce problème, parce que ça prenait absolument, selon la loi, au moins deux témoins qui corroborent quelque chose que quelqu'un aurait fait, qui aurait été digne d'être jugé et condamné. Verset 57. « Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Alors, il est vrai que Jésus avait dit quelque chose de semblable, mais pas de cette nature-là, exactement comme il dit ici. Laissant entendre que c'est Jésus qui va détruire le temple. Vous comprenez? Des mains de l'homme. Alors, même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors, le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et là, c'est là qu'ils vont avoir ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire un motif pour le condamner. Jésus répond, pourquoi il a répondu ça? Parce que c'était la vérité. Pour la première fois, il y a quelque chose qui est dit sur lui qui est vrai. Et Jésus ne le nie pas. Il dit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur vient de comprendre? Que Jésus vient de faire un blasphème. Jésus vient de s'identifier avec Dieu le Tout-Puissant. Il se fait égal à Dieu. Comprenez? C'est inacceptable, c'est un blasphème. Il passe ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? » On n'a plus besoin de regarder ailleurs. Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme passible de mort. Naturellement, ils ne pouvaient pas le tuer, parce qu'ils n'en avaient pas la liberté sous les Romains. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Devine! » pour se moquer de lui. Et les gardes le reçurent avec des gifles. Et là, on vient à la troisième partie, 6 à 72. Et là, on lit ici le rejet de Jésus par Pierre. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth! » Pierre le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui... Mais Pierre le nia de nouveau, une seconde fois. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen et tu parles comme eux. » Autrement dit, tu as le même accent que les Galiléens. Alors, il se mit à faire des imprécations, qui étaient quelque chose comme, « Mais que Dieu me punisse si je mens. » Imaginez-vous, là. C'est ça que Pierre est en train de dire. Ça va loin, là. Ça chauffe tellement de son côté que là, il est prêt à aller jusque-là, de dire que Dieu me condamne si je mens, si je ne dis pas la vérité présentement. Et là, il a dit, il a juré en disant, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et là, Marc finit en disant, au verset 72, « Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. » Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, « Avant que le coq chante deux fois, tu vas m'avoir renié trois fois. » Alors, il se mit à pleurer. Qui dit, « Pleurer amèrement. » C'est-à-dire, il ne faisait pas juste avoir des petites larmes, là. Il pleurait, là, à chaudes larmes. Parce que tout à coup, et ici on ne le voit pas, mais ce qu'on voit aussi dans un autre évangile, c'est que ça dit que quand le coq a chanté la deuxième fois, Jésus s'est reviré de bord. Il a regardé Pierre dans les yeux. Et Pierre a compris. Parce qu'il venait de réaliser, lui qui avait dit, « Moi, je vais mourir pour toi, Jésus. » Les autres, peut-être, ils vont t'abandonner. Mais moi, jamais, jamais je ferai ça. Je t'aime trop. Moi, je vais mourir pour toi. Et c'est là que Jésus lui avait dit, Pierre, dans un sens, je sais que tu m'aimes. Je sais que je connais ton cœur. Mais tu vas me renier trois fois. Pierre ne le croyait pas. Et ça a été certainement une expérience douloureuse. Peut-être certains d'entre vous, ce matin, vous êtes ici, puis vous avez vécu ça, avoir... pas pris position pour Jésus comme vous savez que vous auriez dû prendre position pour lui. Ou vous avez peut-être viré votre dos à Jésus et était dans le monde. Et c'est mal, vous le savez. Et votre cœur est triste. Est-ce que Jésus vous a pardonné? On sait qu'une fois qu'il a ressuscité, hein, il est allé restaurer Pierre. Il a interagi avec lui d'une manière spéciale, qu'il n'a pas fait avec les autres disciples, mais il l'a fait avec Pierre. Parce qu'il savait qu'est-ce que Pierre avait sur son cœur. Il ne voulait pas que Pierre continue avec cette tristesse. Maintenant, quelles sont les souffrances que Jésus a endurées? Est-ce que vous les avez remarquées? Il y en a une qu'on n'a pas lue directement ce matin, mais qui était dans les versets. Il y a cinq souffrances qu'on voit ici que Jésus a endurées. Au chapitre 14, les versets 32 à 42, qu'on n'a pas lus ce matin, mais on voit c'est l'indifférence de Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus... dans le moment probablement le plus intense de sa vie, où on sait que ça nous dit qu'il a eu des grumeaux de sang sur son front, il a eu des angoisses terribles dans son âme, tellement là, que le texte dit qu'il aurait pu en mourir, dans le sens que tellement que à ce moment-là, là, quand il agonisait, il était sous une pression là, intérieure qui était incroyable, humainement parlant, à supporter. Et là, Jésus avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour leur demander de veiller avec moi.
Venez avec moi dans ce temps de prière que je vais faire maintenant. Venez avec moi, venez intercéder avec moi, venez me soutenir dans la prière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre, Jacques et Jean? Ils ont dormi à la place. Et Jésus est allé les réveiller. Une fois, il dit, dormez maintenant. Dormez maintenant, c'est comme, je passe à travers, mais vous n'étiez pas là pour être avec moi. C'était une indifférence totale. Indifférence à ce que Jésus allait vivre. Eux, ils étaient fatigués. Ils avaient besoin de dormir. Jésus avait besoin de prier. Ils n'ont pas été avec lui pour le soutenir. Donc, ça, c'est la première chose que Jésus a vécue ici. Cette indifférence de Pierre, Jacques et Jean. Ensuite, on voit au verset 43-49, même avant, pendant la chambre haute, pendant le repas pascal, au verset 10 et 11, Jésus avait déjà annoncé que Judas allait le trahir. Et on le voit se réaliser au verset 43-49. Donc, Jésus a vécu aussi la trahison d'un des siens, de celui qui a aimé, de celui aussi auquel, pour combler son amour, lui a lavé les pieds. Pas longtemps avant. Imaginez-vous. Et pourtant, Judas va le... Une autre souffrance que Jésus a vécue, c'est dans les versets 50 à 52, où ça dit justement que lorsqu'ils ont arrêté Jésus, ils l'ont abandonné. Les 11 disciples qui restaient, fidèles à lui, à ce moment-là, l'ont tous abandonné. Il était seul. Jésus le voulait aussi, dans un sens. Il voulait les protéger, mais eux l'ont aussi abandonné. C'est ce que le texte nous dit. Ils abandonnèrent Jésus. Les versets 53 à 65, comme souffrance, c'était le mépris des autorités juives et romaines. Parce qu'on ne l'a pas traité justement, et en plus, on lui a donné des coups, on s'est moqué de lui en disant, « Voici qui te frappe. Tu devrais deviner, t'es le Fils de Dieu, t'es le Christ, t'es le Messie. Ha ha, dis-nous qui t'a frappé. » Et là, ils l'ont complètement méprisé, autant par leurs paroles que par leurs gestes, que par la façon dont ils ont cherché à le condamner. Et la dernière souffrance qu'on voit que Jésus a subie ici, c'est les versets 60 de Pierre. Où Pierre, celui qui avait dit « Jamais, 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 je vais te faire une chose semblable », l'a fait. Et Jésus a connu ce reniement de Pierre. Vous savez, la douleur de l'indifférence, c'est ceci. C'est d'avoir été traité froidement ou d'une manière insensible et détachée par quelqu'un. Ça, c'est ressentir l'indifférence face à soi-même. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il a expérimenté dans le jardin de Gethsémané. Par quelqu'un qui nous devait ou duquel on aurait dû recevoir respect et fidélité. On s'attendait à ce que cette personne-là nous traite avec respect et fidélité et on était trahis. Ceux qui ont connu une relation amoureuse et puis il y a eu quelqu'un qui est parti avec un autre, il y a eu l'adultère, vous savez, c'est ce sentiment de trahison. Jésus l'a vécu lui aussi. La douleur de l'abandon, c'est d'avoir été laissé à soi-même ou mis de côté sans recevoir d'aide ou d'assistance. Et vous savez, ceux qui vivent cette douleur de l'abandon, par exemple, c'est assez commun, c'est des personnes qui n'ont pas connu leur mère ou leur père, parce que soit qu'il est décédé très tôt, ou qu'il est tout simplement parti, puis ils n'ont pas eu de relation avec... Et ils ont souvent cette douleur de l'abandon, qui dure des fois jusque dans la vie adulte, jusqu'à la fin de leur jour, tellement que
c'est douloureux, c'est marqué dans le cœur. Et Jésus a vécu cette douleur-là de l'abandon. Celle du mépris, c'est d'avoir été considéré comme indigne d'égard, indigne de respect, indigne d'avoir été estimé, de considération, d'attention, d'écoute et de soin. Et à cause de cela. Et finalement, la douleur du reniement, c'est d'avoir été désavoué ou répudié par quelqu'un qui a déclaré solennellement « Je te connais pas, puis je ne veux plus rien savoir de toi » ou je peux intéresser, oublie-moi. Alors, c'est cette douleur du reniement, d'avoir été comme complètement rejeté. Maintenant, laquelle de ces douleurs a été la pire pour Jésus? J'ai pensé un petit peu à ça. Il dit, parmi ces moments-là, est-ce qu'il y en a une qui était pire pour lui? Puis, celle que j'ai pensée, un peu comme basée sur ma logique humaine, c'était, c'est sûrement celle du reniement de Pierre. Parce que Pierre, dans le fond, Jésus l'avait choisi aussi pour être celui qui allait être cette pierre sur laquelle aussi il allait bâtir son Église, sur cette déclaration qu'il avait faite, tu es le Christ, c'est celui à qui avait remis les clés du royaume, puis que Pierre un jour allait jouer justement un rôle vraiment important dans le Pierre, il y avait peut-être quelque chose là. Mais vous savez, selon les Écritures, finalement, ça serait plutôt la trahison de Judas qui aurait été quelque chose qui a comme heurté le cœur de Jésus d'une manière particulière, encore plus que les autres. Parce que ça nous dit dans Jean 13, 21, qu'à l'idée que Judas allait le trahir, exactement à ce moment-là, ça dit que Jésus fut troublé dans son esprit, précisément à le trahir. Et en plus, ça dit que tous les disciples, incluant Judas, étaient profondément attristés d'entendre ce que Jésus leur annonçait qui était pour arriver. Alors même les disciples eux-mêmes ont été attristés, et même Judas en plus. Et même Judas est allé jusqu'à demander à Jésus, « Jésus, ça serais-tu moi? » Comme s'il essayait d'être hypocrite ici, sachant très bien que c'était lui, mais devant les autres disciples pour pas que ça paraisse, quelque chose comme ça. Mais c'est là, à ce moment-là, que Jésus a été troublé. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a seulement deux autres occasions dans son esprit. Et une de celles-là, c'est dans Jean 11:33, lorsque Jésus est avec Marthe et Marie et constate la mort de Lazare. Il constate l'impact que la mort de Lazare a aussi sur Marthe et Marie. Et là, ça dit que Jésus a été troublé, attristé dans son esprit. Et vous savez, c'est quoi l'autre occasion où Jésus a été comme ça troublé, attristé dans son esprit? Lorsqu'il pleurait sur Jérusalem, non. On le voit dans Jean 12, 27. Et c'est lorsque Jésus annonce aux disciples sa souffrance intérieure à l'approche de sa mort sur la croix. Et ici, c'est comme si on peut voir que la trahison de Judas était équivalente à ce qui allait aussi arriver, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. Ça a eu cette même répercussion. Mais en plus, rien n'allait égaler. Qui dépasse de loin les cinq que je viens de mentionner. Et on va le voir plus tard. Maintenant, comment est-ce qu'on peut regarder la souffrance et ce que Jésus a vécu justement ici, ces cinq douleurs? Et regardez ce que Pierre, qui était naturellement un témoin de tout ce qui se passait ici dans Marc 14, Pierre a écrit dans son épître, la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 21 à 25, ceci. « Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Christ aussi a souffert pour vous. » suiviez ses traces. Lui, Jésus, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, Jésus, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Voici comment Jésus a dealé avec ces souffrances-là dans sa vie. Lui, Jésus, sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener ceux qu'il vous a guéri. Oui, vous étiez comme des brebis perdues, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Et ensuite, dans Hébreux 4, 14 à 16, encore là ici, je trouve un super de beau texte qui nous montre encore comment Jésus veut être avec nous, peu importe les souffrances auxquelles on peut être exposé. Ça dit ceci, au verset 14, « Tenez donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand souverain sacrificateur, la présence même de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. » Imaginez-vous là, c'est incroyable ici. Jésus peut vraiment s'identifier avec nous dans nos souffrances et dans notre cas à cause de nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a goûté lui aussi à la souffrance. Au contraire, notre souverain sacrificateur a été tenté, a été éprouvé en tout comme nous de péché. Il n'a jamais laissé aucune de ses souffrances, que ce soit le reniement, que ce soit le mépris, que ce soit l'abandon, l'indifférence, il n'a jamais laissé aucune de ses souffrances détracter ses yeux de son Dieu. Et il a su garder sa relation avec Dieu, sa confiance en Dieu, sa paix vis-à-vis de Dieu. Mais il sait que nous, on a besoin d'aide. Il sait, et là c'est pour ça qu'il nous dit au verset 16, « Approchons-nous donc avec confiance où règne la grâce. » Hein, si on va au trône de Dieu, c'est pas pour être chopé, c'est pas pour être tranché en mille morceaux, c'est pas pour être déshabillé et condamné. Non, c'est pourquoi? Pour y trouver la grâce, parce que c'est là, au trône de Dieu, nous dit le texte, que règne la grâce. C'est là qu'on va trouver la grâce. Nous y obtiendrons le pardon qu'on a besoin, qui est la miséricorde ici. Savez-vous c'est quoi la miséricorde? Il y a une belle expression qui vient de l'hébreu, qui est une épaule douce. C'est merveilleux, ça? On s'approche du trône de Dieu. C'est d'y trouver une épaule douce. Pas une condamnation, pas une critique, pas un jugement, pas une claque sur la gueule, pas un coup de pied au derrière. Une épaule douce. Parce que c'est là que règne la grâce. Et je peux vous dire ce matin que nos cœurs soupirent après la grâce. Et qu'il n'y a rien de plus merveilleux qu'on peut s'offrir les uns les autres. Et même d'inviter un frère, une sœur, à aller là où règne la grâce, au trône même de Dieu. Je pense que c'est le plus grand privilège que je peux avoir, moi, en tant que pasteur, de conduire certains d'entre vous au trône de la grâce, pour y trouver secours, selon ce qui est dit ici. Et nous y trouverons la grâce pour être secourus dans nos besoins au bon moment, c'est-à-dire au moment où nos cœurs ont besoin de l'eau que Jésus veut nous offrir à chacun de nous. C'est ce qu'on a goûté au moment de comprendre pourquoi il était mort sur la croix et qu'il offrait à chacun de nous sa grâce. Vous savez, les répercussions de telles blessures dans nos vies peuvent être énormes. Par exemple, quelqu'un qui a vécu l'indifférence, bien souvent, il ne se sentira pas aimé par personne. Il va avoir un désir ardent et constant pour l'affection et malheureusement, des fois, il peut aller chercher cette affection dans des... Certains vont même se tourner vers l'immoralité sexuelle pour aller chercher un faux sentiment d'affection parce qu'ils ont connu l'indifférence et leur cœur est affecté énormément encore par cette indifférence. Souvent, c'est des gens qui pleurent intérieurement parce qu'ils ne sont pas aimés. Ils ne se sentent pas aimés par personne. C'est tragique, hein? C'est tragique de ne pas se sentir aimé par personne. Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés, même par Dieu. Et souvent, c'est lié à des choses comme ça, à cause de cette indifférence que des gens ont vécue. Les répercussions de la trahison, par exemple. Souvent, quelqu'un qui a été trahi va avoir beaucoup de difficultés à faire confiance à quelqu'un d'autre. Beaucoup de difficultés. Je ne peux plus faire confiance à personne. Parce qu'on m'a... Il va avoir beaucoup de difficultés à développer une relation de confiance avec quelqu'un. Ça ne l'intéressera pas. Beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur ou le donner à quelqu'un d'autre maintenant. Non. Non, je ne veux pas faire ça parce qu'on m'a trahi et je ne veux plus avoir mal comme ça. Plus jamais quelqu'un va me faire mal de même. Et là, le cœur se ferme. C'est dommage. Personne qui était abandonnée peut réagir vivement face à quelqu'un qui va sembler l'abandonner. J'ai déjà vu une situation où une personne ne savait pas où était son conjoint, puis ça a été un moment de panique incroyable, pas explicable, parce qu'elle avait ce sentiment qu'il va m'abandonner. Il est parti pour toujours. Il ne reviendra pas. Il était simple. Puis moi, j'étais là dans la maison, en train d'essayer de la consoler, de comprendre et de prier avec elle. Mais il était parti au dépanneur. Mais ça, c'est ce que cette douleur peut engendrer sur un cœur. Souvent, ces personnes-là qui ont été abandonnées vont devenir parfois des dépendants affectifs ou ils vont devenir extrêmement contrôlants pour obtenir le sang. Et là, ça se traduit de cette manière. Ceux qui ont été méprisés, souvent, ils vont être facilement rejetés, ils vont se sentir facilement rejetés par les autres. Ils vont réagir parfois avec une vive colère lorsque quelqu'un leur manque de respect ou simplement lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Puis là, c'est comme, pourquoi que ça suscite autant de réactions? Mais ce qui est derrière, c'est le mépris avec la personne à lutte, qu'on le respecte pas, qu'on le méprise. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire, je le traduis comme ça, mon cœur le traduit comme ça. Et là, il y a une réaction colère. Et souvent, les gens aussi vont construire un mur entre eux et la personne qui manifeste du mépris pour justement garder une distance. Voyez comment ces choses-là peuvent se traduire. Finalement, les répercussions du reniement. La personne qui a vécu ça, pas de lui. Il va rechercher quelqu'un de fiable en qui il peut avoir fait confiance, mais il va vivre très durement une déception ou une incompréhension. Et là, son cœur va réagir. C'est aussi quelqu'un qui va être souvent centré sur lui, sur ce qu'il ressent à l'intérieur. Il va lutter avec toutes sortes de pensées négatives, comme par exemple, « Personne ne m'aime, moi. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas avec moi. Personne ne me comprend. » Dieu ne mérite même pas ma confiance. C'est toutes sortes de pensées qui sont fausses. Il est vraiment en train d'avoir ces pensées-là qui viennent dans sa tête. Et ça, c'est justement la douleur du reniement. Ce que j'aimerais faire pour terminer, j'aimerais prier avec vous ce matin. Parce que je suis conscient qu'il y en a qui sont ici ce matin et qui peuvent s'identifier avec ce que je viens de donner. Il y a des choses dans ça qui ont résonné dans votre cœur. Et j'aimerais ça qu'on puisse justement ensemble aller au trône de la grâce. Et j'aimerais terminer ce matin en priant. Et prenez un temps dans la prière. Appropriez-vous à votre réalité, à vous, selon ce que vous vivez. C'est peut-être pas toutes ces choses-là, mais il y a peut-être quelque chose qui est pour vous ce matin. Et vous pouvez les apporter à Jésus, au trône de la grâce. Prions ensemble. Jésus, j'aimerais te remercier ce matin de ce texte dans l'Évangile de Marc. J'aimerais te remercier de ce que moi ce matin. Parce que toi-même, tu as vécu l'indifférence. Tu as vécu la trahison, l'abandon, le mépris et le reniement. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce que ça fait. Et tu m'invites ce matin à venir auprès de toi, t'ouvrir mon cœur. Est-ce que tu peux ouvrir mon cœur ce matin, Seigneur Jésus? Est-ce que je pourrais t'apporter ce que mon cœur vit? La douleur qui peut être là. Est-ce que ça l'entraîne dans mon quotidien, dans mes relations? Est-ce que je pourrais t'apporter cela ce matin, Seigneur? Est-ce que tu pourrais me donner la grâce que mon cœur a besoin? Est-ce que tu vois, Seigneur Jésus, comment je me suis senti quand on m'a traité avec indifférence ou qu'on a trahi ma confiance ou que j'ai été abandonné? Méprisé ou renié. Tu vois comment cette personne ne m'écoutait pas. Ou comment elle n'avait pas de temps pour moi. C'est peut-être mon père, ma mère, c'est peut-être quelqu'un d'autre, Seigneur. Mais elle ne s'intéressait pas à moi. Je ne me suis pas senti aimé ou respecté. Est-ce que tu vois, Seigneur, mon cœur ce matin? Vois-tu la peine, la tristesse qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que tu pourrais l'enlever? Pourrais-tu enlever cette tristesse, cette peine? Pourrais-tu mettre ta joie, ta paix dans mon cœur? Personne qui m'a blessé? Ou est-ce que tu es différent? Peux-tu me montrer comment tu es différent, toi? Comment veux-tu interagir avec moi, Seigneur, maintenant? Est-ce que je pourrais t'apporter mon cœur à chaque jour? Est-ce que je pourrais sentir ta présence, Jésus, à mes côtés, quand je me sens seul, quand je me sens pas compris par personne, quand je me sens pas aimé? On ne prend pas en considération qui je suis ou mes besoins ou quoi que ce soit. Tu vois, Seigneur, comment des fois mon âme est triste. Est-ce que je pourrais me tourner vers toi? Est-ce que je pourrais justement venir à ce moment-là aussi au trône de ta grâce? Qu'est-ce que tu donnerais à mon cœur pour que tout à coup mon cœur voit les choses différemment? Te voit comme tu es vraiment, Seigneur. Jésus, si je me sens encore parfois que les gens sont indifférents vis-à-vis de moi, ou je me sens trahi, ou je me sens abandonné par quelqu'un, ou je sens qu'on me méprise, ou tout simplement qu'on m'a renié, rejeté, comme si je n'existais pas,
Est-ce que toi, Seigneur Jésus, tu peux prendre soin de mon cœur? Est-ce que ton amour peut guérir mon cœur? Ce matin, je voudrais rester au pied du trône de la grâce. Je ne sais même pas si je peux te faire confiance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la difficulté, Seigneur. Est-ce que tu peux venir à mon aide? Peux-tu venir à mon secours? Je t'ouvre mon cœur ce matin, Seigneur. Peux-tu interagir avec moi? Merci, merci de m'inviter à m'approcher de toi avec confiance. Et je te remets tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre, Seigneur, que tu veux me montrer, j'aimerais ça que tu le fasses. J'aimerais que, Seigneur, que tu interagisses avec moi pour que mon cœur soit rempli de ta grâce. Et que je puisse vivre pour toi cette vie nouvelle avec un fleuve d'eau vive qui coule. Merci Seigneur Jésus, merci encore de m'aimer autant et d'être là pour moi. Et je m'en remets à toi totalement Seigneur Jésus. Merci d'avoir accepté chacune de ces souffrances par amour pour moi. À toi la gloire Jésus. Amen.